Vous écoutez RTL.
Première radio de France. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, vous êtes les super bienvenus dans la curiosité. Bonsoir à vous Thomas.
Comment ça va Sidonie?
Mais très en forme.
On est en pleine forme, salut les curieux, on est ensemble jusqu'à 22h évidemment. Et comme tous les soirs, vous pouvez réagir au 3210 sur RTL.fr et sur les réseaux sociaux avec le mot dièse, le hashtag La Curiosité RTL. Diane attend vos appels.
Au programme, une révélation. Saviez-vous qu'Hitler s'est inspiré de l'Amérique des années 20 pour construire sa pensée totalitaire, pour élaborer l'idéologie nazie? On vous racontera comment le dictateur s'est servi du pire de l'Amérique avec le magazine Historia.
Et puis ce soir, on vous conseille de bien attacher vos ceintures. Bienvenue dans les coulisses des plus grands films d'action, James Bond et les autres. Notre invité nous fera découvrir le métier de cascadeur juste avant la sortie du film Fast and Furious 7.
Et maintenant, brûlez tous vos cours de géographie.
RTL.
Le Mont Blanc n'est pas en France. C'est un livre qui raconte des histoires de bizarreries de la géographie mondiale.
La curiosité est un vilain défaut.
Ce qui est intéressant, c'est que derrière ces petites histoires, ces petits détails, en fait, il y a toujours la grande histoire.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bon, vous avez bien appris, repasser vos leçons de géographie à l'école, les frontières, les pays et tout ça. Eh bien, apprêtez-vous à tout revoir ce soir.
Tout.
Presque tout.
Ah bon,
allez, quand même presque tout dans la curiosité. Des frontières qui ne sont pas là où elles devraient être, des îles qui n'existent pas mais qu'on revendique. Enfin bref, notre invité est venu complètement ébranler nos connaissances, nous shampouiner la tête. Bonsoir Olivier Marchand.
Bonsoir. Oui.
Bonsoir.
Vous allez bien?
Bien, très bien. Oui, effectivement, oubliez tout ce que vous avez appris à l'école.
Alors vous avez répertorié toutes les bizarreries de notre géographie mondiale. On apprend notamment que le Mont Blanc n'est peut-être pas en France. Alors, ça veut dire quoi? Que c'est un autre mont qu'on a en France ou ça veut dire autre chose?
Alors, en fait, il y a un différent entre les Italiens et les Français sur, on va dire, la nationalité ou la possession du Mont Blanc. Il y a deux versions qui s'affrontent ou qui s'opposent. Pour les Français, le Mont Blanc, il est intégralement en France. Il n'y a pas de doute. Vous voyez, le sommet, il est vraiment sur le territoire. Il y a une grande langue de terre française qui est censée descendre au-dessus du sommet pour bien englober le Mont Blanc. Les Italiens sont un peu plus partageurs. Pour eux, la frontière passe au sommet. Donc, le Mont Blanc n'est pas en France, c'est un titre un peu provocateur, hein, pour provoquer la curiosité. Ça tombe bien,
c'est pour ça qu'on vous a invité.
Exactement. Vous êtes bienvenue.
Mais effectivement, les deux pays ne sont pas d'accord sur qui possède ce territoire. Est-ce qu'il est français? Est-ce qu'il est italien? Finalement, c'est pas sûr. On n'en sait rien aujourd'hui.
Alors, on se pose la question depuis combien de temps? Depuis combien de temps les Italiens et les Français se battent pour savoir à qui est le Mont Blanc?
Alors, celle où c'est intéressant, c'est qu'ils ne se battent pas en plus. Bon, enfin, vous voyez, c'est un peu les premières
ah
fois
oui,
qu'on entend parler. Tout le monde s'en contrefiche, à part moi. Depuis 1860, en fait, il y a un espèce de flou autour de la possession du Mont Blanc. 1860, c'est l'année où le duché de Savoie est intégré à la France. Et donc, il a fallu tracer une frontière. La frontière, elle est définie dans le traité de Turin qui a été signé entre les deux pays. Enfin, à l'époque, c'était pas l'Italie, mais bon, on pourra y revenir. On n'est pas d'accord sur l'interprétation du traité. Pour les Français, le Mont Blanc, il est intégralement en France. Mmh. Pour les Italiens, la frontière passe au sommet.
Voilà. Alors, moi, je suis allé au sommet du Mont Blanc. Hein.
C'est
fatigant avec mes petites jambes et mes poumons. Je vous confirme qu'il n'y a pas de pointillés pour marquer la frontière. Alors, comment on peut vérifier, je ne sais pas, si on va sur Google Maps, le Mont Blanc, il est côté français, il est côté italien.
Vous allez sur les cartes les plus officielles qui puissent exister en France, sur les cartes IGN. Mmh. Pour les cartes IGN, le Mont Blanc, il est français. C'est d'ailleurs la version qui est reprise sur Google Earth. Hein, les auditeurs pourront y aller. Mmh. Mais si vous achetez une carte italienne, vous verrez que la frontière, elle passe effectivement au sommet. Donc les deux pays ne sont pas d'accord.
On ne va pas se faire la guerre pour autant. Hein.
Non, on préfère jouer au football, c'est mieux. Mmh. Mais effectivement, on a tenté à divers moments de régler le différend, mais ça n'est jamais allé au bout. Il n'y a pas vraiment de volonté politique. Ma version, c'est de dire que peut-être que les Italiens ont finalement pas vraiment envie de s'occuper du Mont Blanc, parce qu'il faut quand même aller chercher les jambes cassées, les gens qui ont un mal fou à monter là-haut, ça coûte des sous, il faut nettoyer. Peut-être qu'ils ont envie de nous le laisser après tout, finalement, c'est peut-être pas plus mal. Nous, prestige national, il faut qu'on l'ait, bien sûr.
Ouais, alors votre livre, Le Mont Blanc n'est pas en France et autres bizarreries géographiques, il est publié au Seuil. Vous l'avez publié en Italie?
Alors effectivement, il est sorti en Italie
avec
l'année
quel
dernière
titre
et il s'est appelé alors en italien Le Mon Plan n'est pas en Italie. J'ai même pas
c'est un opportuniste, vous, Olivier Marchand.
J'ai même pas demandé à ce que le titre change. J'ai vu arriver le livre et j'ai vu qu'il avait appelé comme ça. Je me suis dit, ah ben oui, effectivement, dans les deux sens, ça marche.
Olivier Marchand, autre bizarrerie géographique, une petite ville qui s'appelle Livia, qui est 100% espagnole et elle se trouve en France. Mais c'est où ça?
Alors, Livia, c'est en Cerdagne. La Cerdagne, c'est dans les Pyrénées-Orientales. On est à peu près à 100 km de Perpignan, dans les Pyrénées. Donc, c'est un petit village de montagne. Il doit y avoir 1300 habitants au dernier recensement. Effectivement, c'est un territoire espagnol. La souveraineté de l'Espagne s'y exerce. Bon, à l'heure de l'Europe, effectivement, ça pose pas beaucoup de problèmes. On peut passer la frontière sans aucun souci. Mais en des temps plus anciens, ça a posé quelques soucis, on va dire. Voilà.
Lesquels ?
Alors lesquels ? Bah, par exemple, pour aménager la vie des Espagnols et la rendre plutôt vivable, on avait décidé qu'une route française serait déclarée neutre. Et cette route, elle allait de la frontière espagnole jusqu'au village de Livia, d'accord ? Qui était donc bien enclavé, ce qu'on appelle enclavé dans le territoire français, pour leur permettre de circuler, pour pas avoir à montrer leurs papiers tous les 3 km, parce que le village n'est qu'à 3 km de la frontière, à peu près.
Bon. Donc il y a 3 km de route qui mènent à Livia.
Qui sont déclarées neutres.
D'accord.
Qui est une route française, mais elle est déclarée neutre. Oui. Et les Espagnols peuvent l'emprunter totalement librement pour rejoindre le territoire espagnol.
Et rapidement, ça date de quand, cette histoire-là? Il y a une bagarre, il y a un conflit, il y a une guerre.
Ça date du traité des Pyrénées, cette fois, qui a été signé en 1659 entre la France et l'Espagne, et qui a défini de manière très claire la frontière entre les deux pays. Sauf qu'il y a eu un petit souci dans le traité. On ne parlait que des villages espagnols et on disait que des villages espagnols et français. On disait que les villages de tel côté de la frontière seraient français, les villages de tel côté de la frontière seraient espagnols, mais on n'a pas parlé des villes. Il se trouve que Livia, depuis Charles Quint, bénéficiait du statut de ville. Donc lorsqu'il a fallu attribuer la nationalité au village, très clairement, et Livia, comme l'était espagnole à l'époque, on l'a laissé espagnole. Résultat, elle s'est retrouvée en territoire français et on n'a rien pu faire puisque le traité était très clair. Il n'y avait que les villages de ce côté-là de la frontière qui devaient devenir.
On peut aller faire du tourisme espagnol en France.
On peut aller faire du tourisme espagnol en France. Oui, c'est un peu ça.
C'est séduisant. Une ville française, capitale de la Belgique pendant la Première Guerre mondiale. Un hôtel londonien, territoire yougoslave pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises ce soir dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ce monde est bizarre.
C'est vrai, Thomas.
C'est vrai, ce monde est bizarre. Sa géographie, elle varie selon les désirs d'une poignée d'hommes. Et c'est ça ce qui est passionnant. On en parle avec vous, Olivier Marchand. Vous les avez relevés, ces bizarreries géographiques, comme cette suite de l'hôtel Claridge à Londres. On est pendant la Seconde Guerre mondiale et elle est déclarée territoire yougoslave pendant combien de temps ?
Pendant une journée.
Ah oui, c'est pas long.
En fait, on est le 17 juillet 1945. Alors, hasard de l'histoire, le 17 juillet 1945, c'est la conférence de Potsdam, pendant laquelle les futurs grands de ce monde se partagent l'Europe. Et dans le même temps, la suite 212 du Claridge de Londres est déclarée territoire yougoslave par les Britanniques.
Il y a une petite pancarte, il y a un ruban.
Alors, ils ne l'ont pas proclamé, claironné, il n'y a pas eu beaucoup de publicité. Et en fait, il y a un événement qui s'est produit, un heureux événement qui s'est produit dans cette chambre ce jour-là, c'est la naissance d'Alexandre, le fils de Pierre, qui était à l'époque le roi de Yougoslavie. Voilà.
Ah, et heureux événement.
Il fallait, pour, alors selon les versions, éviter la double nationalité aux descendants de la couronne de Yougoslavie, il fallait lui éviter la double nationalité, parce que sinon ça compliquait sa future accession au trône. Il y a d'autres versions qui disent qu'il fallait faire plaisir à Pierre, le roi de Yougoslavie, on peut y revenir.
Donc Pierre de Yougoslavie qui était en exil à Londres, il est resté combien de temps en exil à Londres?
Il est arrivé en 1941, parce que la Yougoslavie a été envahie relativement tard, si on peut dire, lors de la Seconde Guerre mondiale. Il est arrivé en 1941, il a dû fuir son pays, l'Allemagne nazie a envahi la Yougoslavie dans un blitz d'une violence rare. Belgrade a été pratiquement rasé à l'époque. Il est parti de son pays, il s'est retrouvé là-bas, il y est resté, alors je sais pas bien, mais il y est resté au moins, je pense, jusqu'en 1947. Il y est resté plus longtemps que la fin de la guerre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Tito avait pris le pouvoir à sa place, en fait, on peut dire. C'est pour ça que le 17 juillet, alors que l'Allemagne avait déjà capitulé, il était encore à Londres, Tito lui avait, on va dire, taillé des croupières et avait réussi à prendre le pouvoir et il l'a écarté du pouvoir. Voilà.
Et donc, il est resté dans cette suite au Claridge pendant plusieurs années ?
Il est resté, ça a été, on va dire, son lieu de vie. Il y a beaucoup de gouvernements en exil à l'époque, il en faisait partie d'une certaine manière, le gouvernement polonais, le gouvernement français, on peut en parler aussi bien sûr, qui étaient dans des hôtels à Londres. Il y a eu toute une vie dans les hôtels de Londres de gouvernements en exil, le gouvernement yougoslave en faisait partie, et Pierre II à ce titre y était. Il était cousin du roi d'Angleterre à l'époque, faut le dire.
Comment il a fini Pierre II de Yougoslavie?
C'est une histoire qui est un peu dramatique, mais j'allais dire, c'était un peu écrit, il est arrivé très tôt, Pierre II de Yougoslavie sur le trône en 1934, puisque son père a été assassiné à Marseille en 1934 sous l'œil des caméras. C'est un des premiers scoops d'ailleurs de l'histoire. Il s'est retrouvé comme ça sur le trône de Yougoslavie dans un pays quand même assez instable, déjà on pourrait dire. Et puis il y a eu une régence qui s'est mise en place et en 1941 il a été chassé par l'arrivée des nazis au pouvoir. Il n'a jamais réellement régné, on peut dire. Il est resté, on va dire, 10 jours, hein, juste avant l'invasion des nazis au pouvoir, et il n'a jamais réussi à retrouver son trône. Il s'est marié donc avec Hélène de Grèce, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Comme il n'a pas pu retourner dans son pays, puisqu'il a été déchu de sa nationalité, tous ses biens ont été confisqués par Tito, mais il est parti aux États-Unis, il a sombré dans l'alcoolisme, son mariage il a divorcé, et puis il est mort des suites d'une grève du foie ratée.
Voilà. Bon, triste fin pour un roi qui n'a pas beaucoup régné.
En Yougoslavie, la Yougoslavie de Londres. Olivier Marchand, dans votre livre Le Mont Blanc n'est pas en France, vous nous racontez aussi l'histoire de cette petite ville près du Havre, Sainte-Adresse, qui a été la capitale de la Belgique pendant quelques jours, c'est ça ?
Pendant 4 ans. En fait. 1914, je ne fais pas un dessin, l'Allemagne envahit la Belgique pour pouvoir envahir la France. Bon, les Français la retiennent, mais la Belgique est envahie à pratiquement 99%. Donc le gouvernement belge part en exil et la France lui offre Sainte-Adresse, en lui faisant bénéficier de ce qu'on appelle le privilège d'extraterritorialité, c'est-à-dire que la souveraineté de la Belgique peut s'exercer sur la ville de Sainte-Adresse.
C'est choisi au pif, Sainte-Adresse ?
Alors non, Sainte-Adresse, parce que c'est près du Havre, donc c'est pratique pour les liaisons en bateau, en particulier avec l'Angleterre.
Mais les habitants, ils ne deviennent pas belges ?
Alors les habitants ne deviennent pas belges, non, mais en revanche...
On leur a demandé leur avis.
Ils sont Sainte-Adresse. Oh, bah, les pauvres, sympa.
Mais non, je ne dis pas les pauvres, mais t'as le droit de choisir. Quand même.
Sainte-Adresse était en fait une station balnéaire à l'époque, donc il n'y avait pas énormément de gens, c'est plutôt une ville de vacances, donc autant dire que les vacances à l'époque, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc ils sont installés dans les villes lacossues qu'il y avait dans cette station. Et ils ont vécu là pendant 4 ans, gouvernement belge en exil. Voilà.
Et donc le gouvernement est venu à cette... Oui Thomas, vous faites signe. Et bon, on continue dans un instant. On continue de raconter l'histoire de cette géographie complètement...
C'est dommage parce qu'elle devait être passionnante cette question sur le gouvernement belge en exil.
Et je me suis pris le temps.
Mais
on
a tellement d'autres histoires de géographie à vous raconter que... Et ben voilà, par exemple,
vous quoi,
un territoire qui est resté bloqué au Moyen-Âge. Ça donne envie de rester.
Vous écoutez RTL.
Première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
Ça peut être des villes louées, des villes prêtées, des territoires neutres, des îles disputées.
RTL.
Je raconte dans ce livre 30 histoires de territoires qui ont des choses à raconter de cet ordre-là.
Jusqu'à 22h.
Des histoires de bizarreries de la géographie mondiale.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Moi je vous le dis, il est complètement fou notre professeur de géographie ce soir, Olivier Marchand.
Ouais. Merci pour cette archive.
On vient d'entendre une grande archive, parce que vous êtes très très ancien, Olivier Marchand.
Il est dans notre studio et dans les archives.
il est partout. Vous nous emmenez dans une île anglo-normande, dans la Manche, c'est l'île de Cerque. Et là c'est tout bizarre aussi. Pourquoi ? Parce que c'est une île qui est restée bloquée dans le passé, très, très lointain.
Oui, alors techniquement, c'est, ou c'était, on le verra, le dernier état féodal en Europe. Ça allait rester quand même jusque très très tard.
Ça veut dire quoi, un état féodal ?
Un état féodal, ça veut dire qu'il y a un seigneur, ça veut dire que vous avez un sénéchal, ça veut dire que vous avez un prévôt, ça veut dire que vous avez un connétable, voilà, que des gens avec des titres un peu exotiques.
Des esclaves,
comme ça.
Non, quand même pas.
Non, pas d'esclaves. Avec quand même un parlement, mais un parlement, on va dire, à l'ancienne, c'est-à-dire que ce sont les propriétaires terriens de l'île de Cerque, Sark en anglais, puisqu'ils sont quand même, on va dire, allez, techniquement anglais, avec donc tous les chefs, on va dire, des familles de Cerque qui se réunissent au sein de cette assemblée, mais qui, on va dire, n'est que consultative.
Mais il y a combien d'habitants ?
Je crois qu'il y a 600 habitants à peu près.
C'est tout petit, oui.
C'est tout petit, oui, oui, c'est minuscule. Ça fait, je crois, 5 km2. C'est au large de Guernesey, au large de la Normandie, donc c'est vraiment pas très très loin de chez nous.
C'est dingue d'imaginer ça. Et le seigneur, il a quel droit et privilège ?
Alors le seigneur, effectivement, quand on regarde un peu dans le détail, alors je sais pas s'il les a encore, mais en tout cas, jusqu'il y a pas très très longtemps, il avait encore le droit de posséder, le seul à avoir le droit de posséder des pigeons, le seul à avoir le droit de posséder une chienne. C'était le seul à pouvoir aussi bénéficier de ce que la mer rejetait. Alors aujourd'hui, je suis pas sûr que ça puisse être
en cas de naufrage, ça pouvait être intéressant.
Il y a une époque, c'était quelque chose. Quand la mer rejetait des choses, le seigneur pouvait en bénéficier.
Voilà. Alors dans les années 90, dans cette petite île anglo-normande de Serques, il y a des frères qui sont arrivés, c'est ça, qui sont installés, qui ont essayé de bouleverser, de changer les choses.
Les frères Barclay ont racheté une des tenures, c'est-à-dire une des propriétés de l'endroit. Alors c'est pas les disques Barclay. Ce sont des milliardaires anglais qui possèdent entre autres le Ritz de Londres et le Daily Telegraph. Donc ils ont beaucoup d'argent. Et ils ont, on pense qu'ils ont racheté donc une des propriétés de l'île de Serques. En grande partie, on va pas se mentir, parce qu'on ne paye pas d'impôts là-bas. Ah, donc évidemment, c'est quand même très intéressant. Et à ce titre, évidemment, puisqu'ils sont devenus propriétaires, ils ont eu une place au sein de l'Assemblée. Et à partir de là, ils ont tenté de faire bouger les choses assez méchamment.
Et ils ont réussi. Il y a quoi? Il y a une.
Alors ils ont
le droit de vote, tiens, par exemple.
Alors non, ils ont fait jouer à peu près tous les leviers possibles et imaginables. Ils ont même emmené l'affaire devant les tribunaux européens pour faire bouger Serres, qu'ils estimaient quand même un système féodal qui était assez suranné. Et ils se sont dit,
c'est 16e siècle à peu près.
C'est 16e siècle, ouais, ça date de cette époque. C'est né là, et sinon ça n'a pas bougé depuis le 16e siècle. Mm-hmm. Ils se sont dit, c'est scandaleux, il faut absolument faire bouger les choses là-bas, la démocratie, il n'y a pas cours, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cette horreur. Donc ils ont attaqué, en fait, Serques devant les tribunaux, et l'Europe a intimé l'ordre à Serques, par l'intermédiaire de la couronne britannique, qui est son responsable direct, de faire changer les choses. Effectivement, les choses ont commencé à bouger.
Voilà. C'est passionnant, ces territoires restés comme ça, coincés dans le passé.
Vous en avez un autre,
hein. Il y en a un autre, c'est le mont Athos. Ça se trouve en Grèce, j'imagine.
Ah ouais, alors le mont Athos, alors là, les choses ne sont pas prêtes de bouger là-bas. Le mont Athos, c'est quoi ? C'est une péninsule en Grèce sur laquelle sont accrochés. C'est un endroit magnifique, sauvage, escarpé. Enfin, c'est de la montagne qui tombe direct dans la mer. C'est splendide. Et là, vous avez 20 monastères accrochés à la montagne dans lesquels il y a à peu près 2000 moines orthodoxes. Et techniquement, cet endroit, le Mont Athos, c'est une république autonome. C'est la république monastique autonome du Mont Athos dont l'existence est garantie par la constitution grecque.
Attendez, une république monastique, ça veut dire quoi?
Ce sont les moines qui s'autogèrent entre eux. La seule chose dont la Grèce a la responsabilité, c'est la sécurité des lieux. Pour le reste, les moines gèrent l'endroit. Voilà. Et ce qui est curieux, c'est qu'évidemment, la Grèce fait partie de l'Europe, donc la République monastique autonome fait partie de l'Europe, et la République monastique autonome est interdite aux femmes. Donc c'est le seul endroit de l'UE qui, techniquement, est interdite aux femmes, alors qu'on même dans l'espace de Schengen, normalement, on devrait pouvoir se déplacer, mais vous, Sidonie, par exemple, vous ne pourriez pas y aller.
Ah si, voilà. Sidonie vient taper à la porte des monastères du Mont Athos.
Elle ne pourra pas.
Ça fait combien d'années ou de siècles, évidemment, que ces moines vivent là?
Ça fait plus d'un millénaire. C'est un endroit qui a une longévité absolument exceptionnelle. Alors peut-être que la sauvagerie, le côté sauvage des lieux l'explique, mais ils ont aussi très très bien manœuvré, on va dire, au fur et à mesure des siècles.
C'est-à-dire comment ils ont traversé les guerres, par exemple, les deux dernières guerres?
Alors, par exemple, si on parle de la Seconde Guerre mondiale, ils ont très officiellement demandé la protection personnelle d'Adolf Hitler, qui s'est senti très honoré de cette demande et qui leur a accordé, bien volontiers. Et voilà, donc ils sont assez malins quand même là-bas.
Ils s'entendent bien dans les moines. Ils vivent, ils sont donc 2000 moines à vivre sans femme, quelle folie. Ils s'entendent bien. Il y a jamais de.
Alors si.
De heurts. De...
Depuis les années début. Des années 70, il y a un monastère qui est un peu dissident là-bas. On les appelle d'ailleurs les talibans du Mont Athos. En fait, à partir du moment où le patriarcat œcuménique de Constantinople, qui est, on va dire, leur supérieur hiérarchique direct, a commencé une politique d'ouverture vis-à-vis des catholiques et des protestants, ils n'étaient pas d'accord. Donc ils ont hissé le drapeau noir. Et à partir du moment-là, ils se sont désolidarisés du fonctionnement du Mont Athos. Ils ont été sommés de quitter les lieux, mais ils l'ont jamais fait. Et il y a même eu des combats en 2007 entre moines modérés du Mont Athos et moines extrémistes. Il y a eu 7 blessés graves, je crois. Ils se sont battus à coups d'extincteurs. Enfin, ça a été
pas très chrétien,
moche.
Ça, monsieur.
Voilà. Donc, il y a pas de femmes là-bas.
C'est peut-être pour ça.
Et dans
votre livre, oui, c'est sûr. Le Mont Blanc n'est pas en France. J'ai appris que ces moines du Mont Athos en Grèce vivaient pas à la même heure que nous.
Alors non, ils vivent à l'heure byzantine.
Mais c'est quoi l'heure byzantine ?
L'heure byzantine, c'est très simple. Dès que le soleil se couche, vous réglez votre montre sur minuit. Évidemment, ça vous met en décalage avec le reste du monde. Mais oui. Et puis c'est compliqué, il faut régler votre montre.
C'est-à-dire tous les jours ?
Ouais.
On règle son...
Exactement. D'accord. Alors je crois qu'eux ne le font que toutes les semaines, sinon ce serait un peu trop compliqué. Mais techniquement, il faudrait le faire tous les jours.
Bon, on essaye de faire ça, Thomas. On voit si on arrive à la radio.
Donc, il est minuit, il est 1h du matin, là, chez eux. À peu de choses près, si j'ai bien compris votre système, s'il fait nuit depuis 19h.
Ça sert à quoi, Olivier Marchand, en fait?
L'heure byzantine?
Oui.
Ça rend fou.
Allez, dans un instant, on vous raconte pourquoi le Mexique revendique une île qui n'existe pas.
Vous écoutez RTL.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Une musique de géographie, c'est André Facetta ?
Oui, c'est ça. On a chanté les Parisiennes pour partir à Mexico. Ouais, voilà, on a compris pourquoi notre réalisateur André Facetta a choisi cette ouverture musicale, puisque grâce à Olivier Marchand, on vous fait découvrir les bizarreries de la géographie mondiale et que donc, merci André Facetta, nous voilà partis vers le Mexique.
Caramba, vous parlez bien le mexicain aussi.
Mais
parle
espagnol, c'est dingue. Et donc le Mexique qui revendique une île, et alors là ma prononciation va devenir pourrie, l'île de Bermeja. Qui n'existe
Bermeja.
Pas. Oui. Alors, comment c'est possible, ça ?
Alors, Bermeja, qu'est-ce que c'est ? C'est une île, théoriquement, au large du Mexique, dans le golfe du Mexique, une île qui fait 80 km². Et en 1997, le gouvernement mexicain envoie une expédition, on envoie un bateau, on se dit, bon, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Non, normalement, c'est une île sur laquelle il n'y a rien. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé, on va quand même aller la repérer. Pourquoi ils font ça? Parce que on a découvert du pétrole dans le golfe du Mexique, une énorme nappe, et il faut déterminer où sont les zones d'influence du Mexique et des États-Unis pour se partager la manne à venir. Voilà.
Malheureusement, gros enjeu financier.
Malheureusement, l'expédition revient bredouille. Ils n'ont rien trouvé sur place.
D'île.
L'île a disparu. Alors, évidemment, ça fait un gros pataquès.
Elle a été mal rangée, j'imagine, un truc comme ça.
On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ça fait un pataquès, ça fait une affaire. Il y a un sénateur qui se saisit de l'affaire. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette île qui a disparu? Mais elle était bien là, voilà. Et on commence à crier au complot, bien évidemment. On se dit, mais attendez, si l'île a disparu, évidemment, c'est les Américains qui l'ont fait disparaître. C'est évident. Évidemment, à qui profite le crime?
Mais attendez, quelle superficie elle fait où
80 km², donc c'est quand même...
C'est quoi?
C'est Paris.
Ouais, à Paris, oui, c'est pas tout petit quand même.
Donc, c'est pas tout petit.
Mais c'est joli, il y a quoi dessus?
Justement, enfin, comme personne l'a vu, personne n'est capable de la décrire.
Ah oui, d'accord.
Bon.
Quelqu'un l'a vu quand même.
Quelqu'un l'a vu, probablement.
Ce que personne n'a vu ne peut pas disparaître.
Elle est apparue, voilà. En fait, elle est apparue sur les cartes au moment de la colonisation et elle a été reprise depuis. Ce qui s'est probablement passé, c'est que soit on l'a confondu avec une autre île, soit c'était un banc de sable émergé à marée basse et on lui a donné un nom, soit en fait elle a été rajoutée sur la carte parce que à l'époque ça se faisait, on rajoutait sur la carte des îles pour éloigner les ennemis des côtes. On disait voilà, là il y a une île, attention, t'approches pas. Ça permettait d'étendre, on va dire, sa zone de souveraineté.
Ou la montée du niveau de la mer à cause du réchauffement.
Ou peut-être la montée du niveau de la mer à cause du réchauffement.
On était en, vous avez dit 1997 le dernier.
1997.
Ouais.
Bon, toutes ces explications.
Un peu foireux, ça. toutes ces explications
un peu, on va dire, naturelles tiennent pas trop la route. Ouais. Ce qui est le plus probable, c'est que c'était une erreur ou qu'effectivement on ait rajouté cette île et les Mexicains n'ont jamais vérifié en fait son existence au fur et à mesure des siècles.
Et qui exploite le pétrole alors?
Comment ?
Qui exploite le pétrole ?
Aujourd'hui, c'est les Américains et les Mexicains.
Ah, ils se le sont partagés.
Mais au passage, l'île de Bermeja, enfin, plutôt l'absence de l'île de Bermeja, a permis aux Américains de mettre la main sur 40% de cette manne pétrolière. Voilà. Alors que si Bermeja avait été là, ça aurait été beaucoup moins.
Et aujourd'hui, on en parle encore dans les deux pays, aux États-Unis, au Mexique, de Bermeja.
Alors, aux États-Unis, évidemment, personne n'en parle. Hein, voilà. Mais au Mexique, il y a encore effectivement des gens qui crient au complot et qui pensent que la CIA aurait coulé l'île de Bermeja. 80 km² à couler, c'est un peu beaucoup.
Les Américains sont capables
ça
de
ça. Ça aurait fait un grand boom, je pense qu'on l'aurait, entendu. Est-ce que vous avez faim 20h33?
C'est plutôt flop, enfin... Boum, quand on coule une île.
Oui, enfin bon, c'est pas grave. On va pas faire une explication technique sur les explosifs. Et moi, je viens de poser une question, c'est sympa de m'écouter. Est-ce que vous avez faim?
J'ai rien à faire. Est-ce que j'ai faim? Oui, toujours.
Bon, parce qu'on parle. Oh, la transition pourrie. On part au restaurant, ou plutôt dans un hôtel.
Ah, vous m'invitez?
Si vous voulez, hôtel à cheval sur la frontière franco-suisse, Olivier Marchon.
Ouais.
C'est où ça?
L'hôtel Arbez, on est dans le Jura, dans la vallée des Dappes. Effectivement, il y a un hôtel, il s'appelle l'hôtel Arbez. Il s'appelle l'hôtel franco-suisse en Suisse et l'hôtel Arbez. En France, il a deux noms puisqu'il est à cheval sur la frontière. Effectivement, il est à cheval sur la frontière.
Il y a deux entrées alors.
Il y a deux entrées, effectivement. Et le propriétaire des lieux, enfin du moins l'ancien propriétaire des lieux qui s'appelait Max Arbez, en a fait un pays un peu imaginaire qui s'appelle l'Arbésie. Voilà. Grâce et avec l'aide des autorités françaises, que le premier citoyen d'honneur de ce pays imaginaire était le général de Gaulle lui-même. Max Arbez était un ancien résistant, donc il avait quelques relations et il a fait son pays un peu grâce avec la complicité des autorités françaises.
Mais alors la frontière, elle passe où concrètement? Au milieu des chambres?
Elle passe au milieu du bâtiment, je ne saurais pas vous dire où exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'en gros, les premières marches de l'escalier sont en France, les autres sont en Suisse. Il y a plusieurs chambres, enfin au moins une dans laquelle la frontière passe au milieu. Il y a une table d'ailleurs qui est un argument touristique qui est à moitié en France, à moitié en Suisse. Donc vous pouvez manger avec votre partenaire l'un en France, l'autre en Suisse.
C'est très
vous
bien pour nous, ça, Thomas. Chacun chez lui, ça, l'un en France, l'autre en Suisse.
Quand vous passez le sel, il faut le déclarer à la douane, c'est un peu compliqué. En l'occurrence, il y a une tolérance des autorités françaises et suisses sur ce territoire, parce que sinon, ça compliquerait beaucoup les choses.
Et cette frontière, Olivier Marchand, elle est matérialisée dans l'hôtel Arbez? On la voit, elle est dessinée?
Alors, je ne suis pas allé sur place, donc je ne saurais pas vous dire. J'imagine qu'il doit y avoir deux, trois éléments, peut-être, qui y font penser, parce que c'est un énorme argument touristique pour les propriétaires des lieux aujourd'hui, qui sont les descendants de Max Arbez, qui a créé donc cet endroit. C'est pas Max Arbez qui a construit l'endroit, mais c'est lui qui a créé l'Arbésie. Mais effectivement, quand vous y allez, tout vous indique que vous êtes à la fois en Suisse, à la fois en France.
Alors, je crois que la Suisse passe pas forcément à l'heure d'été en même temps que nous, c'est ça?
Alors non, pas aujourd'hui, tout, oui, mais effectivement, en 1976, la France a adopté l'heure d'été, mais pas les Suisses. Je crois que les Suisses l'ont adopté dans les années 80. Donc j'imagine...
Donc, la gestion du réveil était compliquée,
alors,
c'est ça?
Alors oui, puis j'imagine aussi que pour les réservations, ça devait être un tout petit peu compliqué. Vous appeliez, bonjour, je voudrais réserver une chambre à 13h. Ouais, mais alors, attendu 13h, heure d'été, heure d'hiver, mais en Suisse, en France, bref, ça devait, à mon avis, ça devait créer des problèmes à l'époque. Mais aujourd'hui, ça n'en crée plus, puisque les deux pays sont à l'heure d'été et à l'heure d'hiver.
Et cet hôtel Arbez qui est à la frontière, enfin qui est traversé par la frontière suisse et française, a joué un rôle important pendant la Seconde Guerre mondiale.
Alors oui.
Pourquoi?
Effectivement, de par sa situation, vous imaginez bien, vous avez l'escalier, les Allemands ont envahi la France, ils n'ont pas envahi la Suisse, même des instructions très claires ont été données aux soldats allemands de ne pas mettre une botte sous quelque prétexte que ce soit sur le territoire suisse. Les mauvaises langues diront que c'est parce que les nazis avaient des avoirs planqués là-bas. Il n'y a aucune preuve là-dessus, hein, mais ça n'est qu'une rumeur. Et évidemment, quand vous avez un hôtel dans lequel les premières marches de l'escalier sont en France, alors que le reste de l'escalier est en Suisse, c'est quand même vachement pratique pour faire passer les gens de l'autre côté de la frontière. La Suisse était quand même un refuge pour les soldats alliés qui tombaient en France, les aviateurs en particulier, pour les juifs, puis tous ceux qui voulaient fuir par la Suisse. Donc ça a été un haut lieu de la résistance et un haut lieu de l'exfiltration de personnes vers la Suisse. Donc on ne sait pas combien de personnes ont été exfiltrées, mais il y avait quelques histoires qui sont sorties, en particulier l'histoire d'aviateurs qui ont raconté plus tard que planqués au premier étage de l'hôtel, ils regardaient par un trou du plancher des Allemands qui étaient dans la salle de restaurant en bas, et les aviateurs buvaient du champagne pendant que les Allemands étaient servis avec du mauvais mousseux. Voilà, donc il y a des histoires comme ça qui circulent, c'est assez drôle. On pense, il y a aussi ils ont exfiltré un nombre de résistants incroyable. Et puis des juifs aussi. Max Arbez a été déclaré en 2012 par Yad Vashem juste parmi les nations. Voilà.
Merci infiniment.
Très belle histoire. Ouais,
merci infiniment, Olivier Marchand. Plein d'autres histoires comme ça et de bizarreries géographiques dans le Mont Blanc n'est pas en France, aux éditions du Seuil. À bientôt alors, puisque vous venez assez régulièrement chez nous.
Écoutez, je prends un abonnement quand vous.
On vous propose de devenir sociétaire, tout simplement.
Vous écoutez RTL.